Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux du Mois. Je suis Cyrus et comme d'habitude, je suis accompagné par Benno FX. Bonjour Benno FX.
Salut Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce mois-ci, qu'est-ce que tu vas nous présenter Benno FX ?
Alors ce mois-ci, je vais vous présenter une vieillerie de 2015.
Ouf. Qu'est-ce
de
que tu
fin
nous fais,
2015. Non, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais vous en parler. Il s'agit de Blood Rage, qui est sorti fin 2015. Déjà parce que j'en avais pas encore parlé dans l'émission, vu qu'on l'a commencé bien après, et que c'est un de mes jeux préférés. Je pense qu'il est facilement dans mon top 3 de tous les temps. Et la deuxième raison, c'est que il va faire partie d'une espèce de trilogie de jeux sur différentes mythologies. Et le deuxième, qui s'appelle Rising Sun, sort très prochainement. En gros, le Kickstarter devrait arriver ce mois-ci. Donc, j'ai prévu de vous parler de Rising Sun dans un prochain épisode. Et pour bien faire, je voulais parler de Blood Rage en premier lieu.
Ok, très bien. Il y a une logique dans tout ça. Et donc, t'as eu ton tracking number, je sais pas comment on dit.
Ouais, j'ai eu mon tracking Rising Sun, mais pour l'instant, a priori, ça n'a pas encore quitté l'entrepôt.
Il est pas
ça ne devrait pas tarder.
Ok.
J'ai hâte.
Et de mon côté, je vais vous parler de Pioneers. Voilà. Alors, avant de commencer, je propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires de la dernière fois.
Ouais.
Parce qu'on en a eu pas mal, on a eu 4-5. Et en particulier, outre donc quelques commentaires qui rajoutaient le late pledge pour Seven Continents, ce genre de choses, mais il doit être fermé maintenant, je crois quand même.
Ouais, je crois que c'est. Il y a un auditeur qui s'est fait avoir à peu de choses près. Nous a
ouais,
répondu sur Twitter qu'il avait loupé.
Ouais,
à quelques jours, je pense.
Ouais, on avait relayé sur Twitter, mais bon, ben voilà, cette personne-là l'a vu un peu trop tard.
Ouais.
Donc il y avait ça, et puis on a eu des petites critiques de la part de Twin et Resch, alors toujours sur la partie Seven Continents.
Ouais.
Bon, ils ont trouvé qu'on s'était peut-être un peu trop attardé sur les mécaniques. Alors bon, je dois peut-être un peu faire mon mea culpa là-dessus, parce que c'est peut-être moi qui t'ai un peu fortement lancé là-dessus. Et comme la chronique a duré longtemps, bon, au bout d'un moment, on a dit on va quand même arrêter, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, on s'est pas beaucoup attardé sur le ressenti.
Sur le ressenti, ouais.
Enfin, en tout cas, tu étais pas beaucoup attardé du coup sur le ressenti, parce que c'était toi qui chroniquais. Mais voilà, c'est peut-être aussi parce que j'ai peut-être plus orienté les questions sur la partie mécanique. Bon voilà, on va essayer de faire en sorte de plutôt s'attacher à ça. Alors même si le principe de la chronique, donc c'est bon, normalement effectivement c'est un jeu récent, mais bon déjà on va déroger aujourd'hui spécialement pour les raisons donc que Beno FX a indiqué, en tout cas pour ta partie. Et après le principe c'est d'essayer d'être assez large, hein. Si on a des éléments un peu d'historique sur le jeu, de la construction, tout ça, on essaie de les donner, on passe un petit peu effectivement sur la partie règles, mécanique, on essaie de s'attarder, enfin le principe en tout cas c'est d'essayer de s'attarder un peu sur le twist, ce qui fait un petit peu l'intérêt du jeu, et puis notre ressenti personnel, ce qui fait justement qu'on a aimé le jeu. Donc normalement c'est un petit peu dans notre roadmap, quoi, mais bon voilà. Ça...
Ouais, je pense qu'on a parlé un peu, mais peut-être pas assez, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui joue beaucoup sur le ressenti, hein, même si la mécanique est vraiment intéressante et particulière. Oui, comme tu le disais, il y avait deux raisons pour lesquelles on s'est pas forcément beaucoup attardé. C'est que déjà on avait un épisode relativement long par rapport à d'habitude. C'est un jeu, on a quand même parlé pas mal de temps. Et après, moi c'est mon avis et mon point de vue. Je veux pas non plus exposer trop fort, on va dire, mon ressenti. Parce que le ressenti peut être assez personnel aussi, et j'ai pas envie que des gens soient déçus. Autant une mécanique c'est très on va dire très objectif, un ressenti ça l'est beaucoup moins, et du coup on le donne, mais on essaye de pas trop non plus insister sur notre ressenti propre, parce qu'il peut être très très différent d'un joueur à l'autre. On veut pas non plus qu'un joueur qui ait très envie de jouer à un jeu suite à notre ressenti soit déçu après parce qu'il aura pas du tout le même, quoi.
Non, en revanche, l'idée c'est aussi de bien cibler le type de joueur qui peut être intéressé par le jeu. Ça.
Ouais.
Outre le fait que globalement on va chroniquer quand même des jeux qu'on a aimés, parce que c'est des jeux qu'on a chez nous, qu'on a joué un certain nombre de fois. Moi, je me force pas à jouer un jeu que j'aime pas. Hein. Oui. Donc forcément, les jeux que je chronique, c'est des jeux que j'apprécie d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un critère objectif dans le sens où j'essaie de sortir ce qui peut plaire à des gens, et donc à quel public ça peut s'adresser, mais il y a forcément une part de subjectivité, déjà rien que dans le choix du jeu. Hein.
C'est sûr.
Donc voilà, bon, ça c'était pour la parenthèse commentaire du numéro précédent. Et du coup, ben, je propose qu'on attaque. Alors c'est parti pour Blood Rage.
Alors Blood Rage. Donc Blood Rage, c'est un jeu de Eric Lang qui est sorti fin 2015, qui est passé par une campagne Kickstarter juste avant. Donc campagne Kickstarter de Cool Mini or Not.
Avec un gros succès déjà à cette époque.
Ouais, un succès. Alors un gros succès, pas forcément, un succès assez relatif pour Cool Mini or Not quand même, puisque le jeu a fait 900 000 $ de recettes, donc ouais, c'est vraiment bagatelle. Pas mal, mais bon, Cool Mini or Not est habitué avec certains Zombicides et même avec Rising Sun pour le deuxième jeu de la trilogie à dépasser largement le million, voire faire plusieurs millions. Donc bon, c'est un très beau succès, mais qui aurait pu être, je pense, plus important pour Cool Mini. Donc Cool Mini or Not qui fait l'édition originale, c'est distribué par et édité par Edge pour la VF. Donc souvent voilà, on a cette relation privilégiée entre Cool Mini et Edge. Donc j'ai dit c'est un jeu d'Eric Lang, c'est illustré par Adrian Smith pour la partie graphique, c'est de très très belles illustrations. Bon, Adrian Smith et Eric Lang sont maintenant, à l'époque c'était pas le cas, mais maintenant sont embauchés par Cool Mini. Eric Lang fait le développement, travaille sur le développement de pratiquement tous les jeux de Cool Mini or Not, et Adrian Smith sur la partie graphique de pratiquement tous les jeux de Cool Mini or Not. Donc comme c'est un jeu Cool Mini or Not, bien sûr, c'est un jeu de figurines, donc il y a aussi toute une pléthore de sculpteurs.
Ah là, je suis pas d'accord.
Tu n'es pas d'accord ?
Bah non, c'est un jeu avec des figurines.
Oui, pardon, ce n'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu avec des figurines. C'est vrai, tu fais bien de préciser. Et donc, voilà, dans les équipes aussi, il y a toute une pléthore de sculpteurs qui ont fait de magnifiques petites figurines. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties, on va dire, d'environ 90 minutes, sachant que je vais vous expliquer un petit peu, mais sur les premières parties, ça peut être un peu plus long. Et avec des joueurs qui connaissent très bien le jeu, ça peut être bien plus rapide. On peut passer pratiquement sous la barre des 1 heure, des 60 minutes, quand les gens connaissent très bien le jeu, et ça peut aller assez vite. C'est un jeu donc avec des figurines, mais c'est un jeu de stratégie, un peu d'affrontement, mais c'est assez particulier. Donc en fait, le pitch du jeu, donc c'est dans la mythologie viking. Comme je vous l'ai dit, ça va faire partie d'une trilogie sur différentes mythologies. Donc celui-là, c'est sur les vikings. Le deuxième, Rising Sun, dont je vous parlerai plus tard, est sur la mythologie japonaise. Et le troisième, c'est encore une surprise, on ne sait pas encore. Donc Blood Rage, mythologie viking, ça prend place dans la période du Ragnarok, donc c'est-à-dire la fin du monde viking. Et ben quoi de mieux avant la fin du monde que de se livrer une dernière bataille pour être la tribu viking la plus glorieuse et la plus vaillante avant de disparaître. Donc c'est un jeu dans lequel chaque joueur va incarner un clan viking. Donc dans la boîte de base, il y a 4 clans vikings. Il y a les ours, les loups, les corbeaux et les serpents. Et donc chaque clan il y a un plateau central sur lequel chaque clan va pouvoir se battre pour essayer d'obtenir le plus de gloire possible. Alors les clans au départ sont relativement identiques. Chaque clan dispose de 3 types de figurines. On a le chef, 8 figurines guerriers et une figurine drakkar. Ces clans vont pouvoir se développer de différentes manières. Alors comment ça va se passer ? En fait, le jeu va jouer en 3 âges. À chaque âge, en fait, il va y avoir plusieurs phases de jeu. La première phase de jeu, en fait, c'est une phase de draft, puisqu'on va en fait drafter des cartes, et ces cartes vont nous permettre justement de développer notre clan de manière différente de celui des autres. Donc on va drafter chacun 6 cartes à chaque âge. Donc les cartes sont de 3 types différents. Il y a des cartes d'amélioration, donc justement ce qui va permettre de se différencier des autres au niveau de son clan. Donc les améliorations peuvent être des améliorations des différentes figurines, on peut avoir des améliorations pour notre chef, on peut avoir des améliorations pour notre guerrier, on peut avoir des améliorations pour notre drakkar, on peut avoir des améliorations qui valent pour tout le clan aussi, donc ça va vraiment nous donner des directions stratégiques pour le jeu, pour notre clan. Et on va avoir des améliorations aussi qui vont nous permettre de recruter des monstres, donc des figurines un peu balèzes, donc ça il y a des très belles figurines aussi dans la boîte. Donc ça, c'est les premières, le premier type de cartes, c'est des cartes d'amélioration. On a un deuxième type de cartes qui sont les cartes de quête. Donc les quêtes sont très importantes aussi dans Blood Rage. À la fin de chaque âge, si on a joué des cartes quêtes, donc les cartes quêtes se jouent face cachée, on va vérifier à la fin de chaque âge si on a rempli nos quêtes, et si on les a remplies, on va gagner des points de gloire, mais en plus on va pouvoir améliorer les statistiques de notre clan. Alors je vais expliquer après ce que c'est, il y a trois statistiques de clan qui peuvent être améliorées. Et le dernier type de cartes sont les cartes bataille, donc ça c'est des cartes rouges avec des points de bataille qui vont nous servir lors des combats sur le plateau. Donc ça c'est la première phase, c'est le draft, on va récupérer des cartes. Ces cartes vont pouvoir être jouées dans la deuxième phase, qui est la phase d'action. Donc la phase d'action en fait est assez simple. À chaque tour de jeu, enfin on va faire des tours de jeu, chaque joueur va pouvoir faire une action. Le joueur d'après va jouer, va faire une action, et on va faire chacun son tour une action.
Une action c'est jouer une carte, ça?
Alors pas forcément, non, une action non, en fait il y a cinq actions possibles. Il faut faire une de ces actions.
D'accord.
Donc la première action possible c'est l'invasion, c'est-à-dire mettre une figurine sur le plateau. La deuxième action possible c'est ce qu'ils appellent la marche, donc c'est-à-dire déplacer des figurines sur le plateau. La troisième action c'est les améliorations, donc là c'est jouer une carte amélioration, donc une carte noire sur notre clan. La quatrième action possible c'est jouer une quête, donc jouer une quête face cachée. Si on joue une quête qu'on vérifiera à la fin de l'âge, mais ça nous fait passer notre tour, en gros c'est notre action du tour. Et la dernière action enfin, c'est l'action de pillage en fait, parce que sur le plateau est constitué de plusieurs régions, et dans chaque région il va y avoir une récompense qu'on peut gagner si on pille cette région. Et donc lancer un pillage c'est juste dire bah je pille cette région, je veux la récompense, mais ça va pas toujours se passer simplement, puisque il suffit pas de dire je veux la récompense pour l'avoir. S'il y a d'autres joueurs présents dans la région, va d'abord falloir se battre pour réussir à récupérer la récompense. Donc voilà les 5 types d'actions: invasion, marche, amélioration, quête, pillage. Donc on va tous faire des actions, chacun son tour. Et l'âge va prendre fin soit quand toutes les régions du plateau ont été pillées. Donc si toutes les régions ont été pillées, l'âge prend fin immédiatement. Ou la deuxième solution, c'est que plus aucun joueur n'a de rage. Alors qu'est-ce que c'est la rage ? La rage, en fait, c'est la jauge de points d'action que tous les joueurs vont avoir. Donc on débute la partie avec 6 points d'action, en gros. Et en fonction des actions qu'on fait, ça va nous coûter plus ou moins de points d'action. Par exemple, poser une quête, ça va être gratuit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer la quête, mais ça va pas nous coûter de points de rage. Donc on va pouvoir jouer cette action sans payer de points de rage. Par contre, la plupart des autres actions vont nous coûter de la rage. Par exemple, faire une invasion avec un guerrier, on va dépenser un coup de rage égal à la force du guerrier. Donc si le guerrier a un de force, on va payer un de rage pour pouvoir faire l'invasion, pour pouvoir mettre la figurine sur le plateau. Mmh. Voilà, il y a quelques petites exceptions, c'est toujours précisé sur les cartes ou sur les personnages. Par exemple, le chef a 3 de force. Donc en théorie, si on suit la règle, le coup d'invasion coûterait 3 rages. Mais le chef, c'est spécifié, le chef peut envahir gratuitement. Voilà, le drakkar, pareil, il a 2 de force, donc il coûte 2 de rage à envahir. Et le drakkar se met pas, en fait, on mettra une photo du plateau, mais il y a différentes régions avec des emplacements pour les figurines. Entre chaque région, pas tout à fait, mais entre certaines régions, il y a des fjords. Donc les fjords sont adjacents à 2 régions, et nos drakkars vont dans ces fjords, et comptent comme une figurine dans chacune de ces 2 régions. J'en viens maintenant aux 3 caractéristiques de clan qui peuvent être améliorées. Donc comme je vous ai dit, la rage, au premier âge, on en commence avec 6. On va la dépenser pour jouer des cartes et pour faire des actions. Ça peut être très vite limitant.
Ouais, ça peut aller très très vite quand même.
Ouais, 6 rages, ça peut aller très très vite. Surtout qu'il y a des cartes un peu vilaines qui permettent de piquer de la rage aux autres.
Ouais.
Cyrus voit bien de quoi je parle parce que il en a subi les effets. Mais du coup, ces caractéristiques de clan, donc le premier c'est la rage qu'on a au début du tour. Pendant les tours, en fait, pendant les âges, on va pouvoir améliorer ces caractéristiques de clan. Donc on va pouvoir monter, en fait, notre jauge de rage. Et donc on va pouvoir commencer avec plus de rage aux âges suivants. Donc on peut monter jusqu'à 12 rages au maximum. Donc ça, c'est assez important. Et en fait, ces caractéristiques de clan se montent par différentes manières. Mais la manière la plus simple, c'est de réussir un pillage. Comme je vous l'ai dit, il y a des récompenses dans les provinces quand on pille. Et en fait, ces récompenses, souvent, c'est de pouvoir augmenter une des caractéristiques de clan de 1. La deuxième caractéristique de clan, c'est les haches. Donc les haches, en fait, c'est les points de victoire, donc les points de gloire qu'on va remporter quand on gagne une bataille. Donc je vous l'ai dit, quand on fait un pillage, s'il y a des gens qui sont là pour un peu contester, il va y avoir une bataille. Je vais expliquer le système de bataille après.
Pour un peu contester, si tu veux t'appeler ça comme ça, toi.
Ouais, pour un petit peu contester.
Pour se foutre sur la gueule, quoi.
C'est ça. Mais c'est pas qu'un jeu où on se fout sur la gueule.
Non, non,
mais voilà.
Sûr.
Si on, quand on se fout sur la gueule, la personne qui va remporter la bataille va gagner des points de gloire qui dépendent de son niveau de hache. Donc par défaut, tout début, quand on gagne une bataille, ça nous fait gagner 3 points de victoire. Mais on peut potentiellement monter notre niveau de hache jusqu'à 8. Donc au dernier niveau, on va gagner 8 points de victoire à chaque fois qu'on gagne une bataille. Et enfin, la dernière caractéristique de clan, qui est aussi très importante, c'est les cornes. Donc les cornes, c'est les limites de figurines que notre clan peut avoir sur le plateau. Donc au départ, c'est assez limité. Au départ, notre caractéristique de corne est à 4. On ne peut pas avoir plus de 4 figurines sur le plateau. Donc si on veut faire des grosses batailles ou si on veut vraiment être en force sur le plateau, 4 ça peut être un petit peu limite. À l'âge 1 ça se passe bien, à l'âge 3 si on a que 4 figurines sur le plateau ça peut être un peu compliqué. Voilà, ça c'est les caractéristiques de clan. Donc je vais vous expliquer vite fait maintenant comment se passent des batailles. Alors faut savoir que ces clans, comme je vous l'ai dit, on joue des cartes et ces cartes vont fortement influencer la stratégie des clans. En fait, Blood Rage c'est un jeu où on peut gagner des points en perdant des batailles, où on peut gagner des points en gagnant des batailles bien sûr, mais on peut gagner des points aussi
en se sacrifiant, en allant au Valhalla.
Voilà, c'est ça. Dans la mythologie viking, mourir c'est très glorieux.
Pas mourir au combat.
Mourir au combat en tout cas, oui, pas mourir gelé dans la rivière. Mais mourir au combat c'est très glorieux, donc forcément on va avoir des orientations stratégiques dans lesquelles on va plutôt essayer de se sacrifier plutôt que de gagner les batailles. Donc ça peut être un peu perturbant pour des gens qui ont l'habitude des jeux d'affrontement où faut absolument gagner, faut être le plus fort. Là c'est un peu particulier. Il y a des stratégies bien sûr où on gagne en gagnant des batailles, en étant plus fort. Il y a des stratégies qui sont vraiment axées là-dessus, mais il y en a d'autres qui sont axées sur tout le contraire, c'est-à-dire perdre. Et puis il y a des stratégies aussi pour pourrir les attaques des autres, c'est-à-dire les autres vont gagner mais en gagnant les batailles ils vont perdre d'autres choses. Donc une bataille, comment ça se passe? Une bataille, c'est assez simple. C'est quelqu'un, du coup, qui déclare un pillage, donc dans une région. S'il y a d'autres joueurs qui sont présents, il y aura, quoi qu'il arrive, une bataille. Mais même s'il n'y a pas d'autres joueurs présents, en fait, les joueurs qui sont présents sur les régions voisines vont pouvoir choisir de venir participer à la bataille.
Plus on est de fous, plus on rit, quoi.
C'est ça. On va faire un tour de table, et on va demander au joueur suivant, s'il a une figurine qui est disponible sur une région adjacente, on va lui demander s'il veut rejoindre la bataille. Donc s'il veut, il a le droit de déplacer une figurine. Puis on va demander au joueur suivant, qui peut aussi, et ainsi de suite, jusqu'à que la région soit pleine. C'est-à-dire que comme il y a des emplacements sur ces régions, une fois que la région est pleine, forcément c'est fini, et là il y a bataille. Donc la bataille c'est assez simple, les figurines ont des forces, chacune. Donc on l'a dit, le chef a une force de 3, les guerriers ont une force de 1 quand ils sont pas améliorés, les drakkars de 2, il y a des monstres qui ont des forces de 1 à 4 avec des pouvoirs particuliers. Donc on va faire la somme des points de force. Là, il va y avoir déjà, ben, par exemple, moi j'aurai 8 de force, Cyrus aura 6 de force.
Comme par hasard.
De quoi?
Comme par hasard. Comme par hasard, t'as plus que moi.
Ouais, mais attends, tu peux retourner la situation. Puisque, comme je vous l'ai dit, quand on draft au début, le draft de cartes au début, on peut obtenir des cartes de bataille. Donc en fait, à chaque bataille, on va être obligé de jouer une carte. Donc tous les joueurs vont jouer simultanément une carte face cachée qu'on va révéler. On peut potentiellement jouer n'importe quelle carte, mais le but, c'est quand même de jouer des cartes de bataille qui vont nous rajouter de la force. Par exemple, ben, moi j'avais 8, Cyrus a 6, moi j'ai mis une carte plus 2, et Cyrus a mis une carte plus 5, parce qu'il y a des cartes à plus 5 de force. Donc au final, avec ces cartes-là, c'est Cyrus qui va remporter la bataille. Sachant que le joueur qui remporte la bataille, donc il remporte ses points de victoire de H, de son niveau de H. Si c'est lui qui a lancé le pillage, il remporte en plus la récompense de la province. Toutes les figurines de ses adversaires sont éliminées, donc on enlève les figurines du plateau et on les met sur un plateau qui est à côté, qui s'appelle le Valhalla, donc on les envoie au paradis, puisque ces figurines ne sont pas perdues pour toujours. Entre chaque âge, en fait, on va faire le retour du Valhalla, donc les figurines vont revenir dans la réserve du joueur, qui pourra les replacer ensuite. Les cartes qui ont été jouées, par contre, ça c'est un détail important, mais les cartes de combat qui ont été jouées, le gagnant est obligé de défausser la carte qu'il a jouée, donc Cyrus qui a mis son plus 5, il va la défausser. Et les perdants peuvent récupérer cette carte. Donc moi, mon plus 2, je vais le récupérer et je pourrai le rejouer éventuellement plus tard.
Mais on saura que tu l'as.
Vous saurez que je l'ai. Et on peut surtout jouer une autre carte. Si par exemple, on est sûr de gagner ou si on veut pas, si on veut pas utiliser une carte bataille, on peut très bien mettre une carte de quête ou une carte d'amélioration de clan. Alors attention, si on gagne la bataille, malgré tout, on va pas récupérer la carte. On va la perdre, même si c'est pas une carte de bataille.
Mais ça sert à quoi, du coup, de jouer une carte de quête juste pour le bluff?
Bah alors, des fois, tu n'as même pas. Des fois, tu ne peux ne pas avoir de carte bataille. Et t'es toujours obligé de jouer une carte, même si t'as pas de carte de bataille.
Oui, t'es obligé de jouer une carte, ok.
Et du coup, si t'as plus de carte bataille, que tu joues une carte et que tu remportes la bataille, tu vas perdre une carte quête ou d'amélioration. Okay. Ça, c'est pour les batailles. Alors, dans ces cartes rouges de cartes de bataille, il y a aussi des cartes avec des effets. Il n'y a pas que des cartes plus 1, plus 2, plus 5. La plupart, elles ont des plus 1 ou... Il y a des plus 0 aussi. Il existe des plus 0. Et elles vont avoir un effet. Donc, j'ai expliqué un effet tout à l'heure, mais il y a une carte à plus 0 à l'âge 1 qui permet, en fait, si on perd, de voler une rage au vainqueur. Donc, le gagnant, il va quand même gagner ses points de victoire. Il va quand même éliminer toutes les autres figurines. Mais par contre, celui qui a joué la carte plus 0, voler une rage au vainqueur, il va augmenter sa quantité de rage, donc ses points d'action de 1, et il va faire baisser les points d'action du vainqueur de 1.
Ouais, surtout ça.
Voilà, ça peut être très très handicapant, et du coup, il va falloir faire attention, parce que comme les perdants récupèrent leur carte, et ben, ce joueur-là va pouvoir rejouer cette carte une autre fois. Donc il va pouvoir des fois venir dans des combats où il y a beaucoup beaucoup de joueurs, il va mettre juste un petit bonhomme qui a 1 de force pour être à peu près sûr de perdre. Il va jouer cette carte et il va pouvoir voler de la rage au gagnant plusieurs fois de suite. Ça peut être très perturbant. Il y a des autres cartes qui permettent notamment d'annuler les textes. Il y a des cartes qui permettent de faire défausser toutes les cartes qui ont été jouées. Il y a tout un tas de cartes comme ça qui vont permettre, on va dire, de pimenter un peu les combats et puis surtout qui vont permettre des stratégies autres que des stratégies de victoire
de
et de bourrin. Comme je vous l'ai dit, on va jouer un âge comme ça jusqu'à que toutes les provinces ont été pillées ou jusqu'à que tous les joueurs n'aient plus de rage à dépenser. Et donc à la fin de l'âge, il se passe plusieurs choses. Déjà, s'il reste des cartes aux joueurs, ils doivent se défausser de leurs cartes de l'âge sauf une. Ils peuvent en garder une pour l'âge suivant. Ensuite, on va vérifier si les quêtes sont remplies. Donc quand les quêtes sont remplies, ça permet de gagner des points de victoire et ça permet d'augmenter ses statistiques de clan. Donc par exemple, typiquement, on peut augmenter la statistique qu'on veut. On va pouvoir augmenter notre statistique de rage pour commencer avec plus de rage, donc plus de points d'action pour l'âge suivant. Donc on va vérifier toutes les quêtes de tout le monde. Et ensuite, à la fin de l'âge, il y a le Ragnarok. Donc c'est-à-dire qu'il y a une des provinces du plateau qui va être complètement détruite. Et s'il y a des figurines dessus, elles vont être aussi détruites. En début d'âge, on sait quelle province va être détruite à la fin de l'âge. Donc c'est une donnée qu'on connaît. Donc si on veut pas se faire détruire ces figurines, on sait qu'il faut pas qu'elle reste sur cette province-là à la fin du tour.
C'est ça, faut juste pas y aller quoi.
Alors, faut pas y aller, ça dépend. Puisque mourir au Ragnarok, c'est aussi prestigieux. Donc en fait, les figurines qui vont disparaître pendant ce Ragnarok vont gagner des points de victoire. Donc par exemple, à l'âge 1, chaque figurine d'un joueur mort pendant ce Ragnarok va rapporter 2 points de victoire. 3 points à l'âge 2 et ça va jusqu'à 4 points. Donc chaque figurine qui meurt vaut 4 points pendant le Ragnarok à l'âge 3. Donc voilà, il y a des stratégies qui permettent de jouer là-dessus. Il y a des cartes d'amélioration de clan qui permettent de doubler les points de victoire quand nos figurines meurent au Ragnarok. Donc là, on peut voir que c'est intéressant si on arrive à mettre, 4 figurines.
Ouais, ça fait vite des gros scores quoi.
Ça fait beaucoup de points de victoire. C'est très intéressant. Donc il y a des stratégies qui vont dans ce sens-là. Une fois que on a fait cette étape du Ragnarok, toutes les figurines qui sont mortes pendant cet âge vont revenir du Valhalla vers les réserves des joueurs. Là aussi, il y a des cartes de clan qui permettent de scorer sur les figurines qui reviennent du Valhalla. Donc quand on a ce genre de cartes, on va essayer de massacrer le plus de nos figurines parce qu'on va faire beaucoup de points quand elles vont revenir du Valhalla. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de stratégie. Alors il y a d'autres stratégies aussi où il faut pas perdre et il faut essayer de faire des points en gagnant des victoires. Il n'y a pas que des stratégies de défaite. Mais il y a cette dualité de stratégie entre des stratégies où je vais gagner des combats et du coup remporter des points de victoire et des récompenses, ce qui va me faire améliorer mon clan, et des stratégies où je vais aller juste participer au combat pour me faire massacrer le maximum de figurines pour faire des points sur le retour du Valhalla. Alors, d'un âge à l'autre, les figurines qui ne sont pas mortes, ni au Ragnarok, ni pendant les combats, qui ne sont pas allées au Valhalla, restent sur le plateau. Donc on commence l'âge 2 avec déjà des figurines sur le plateau et déjà des rapports de force sur le plateau. La dernière chose que j'ai pas expliqué, je pense qu'après j'ai à peu près fait le tour du jeu, les provinces entourent une méga province qui s'appelle Yggdrasil. Donc c'est l'arbre de vie des Vikings. Donc cette province du milieu est un peu particulière, c'est-à-dire quand on fait une invasion, on ne peut pas directement venir dessus. On est obligé d'abord de passer par une des régions extérieures et de faire un déplacement après pour aller sur Yggdrasil. Et Yggdrasil, c'est déjà le pillage. Si on arrive à un pillage sur Yggdrasil, on n'augmente pas une caractéristique de notre clan, on va augmenter les trois d'un coup de 1. Donc c'est une province très puissante.
Et très convoitée.
Très convoitée. Mais du coup, par contre, le revers de la médaille, c'est que déjà cette province est adjacente à toutes les autres. Donc quand on lance un pillage, les figurines de tout le reste du plateau peuvent venir contester. Et surtout, c'est une province où il n'y a pas de limite de figurines. Il n'y a pas d'emplacement, en fait, qui limite le nombre de figurines sur la province. Donc voilà, là tout le monde peut venir participer à la bataille. J'ai encore fait une partie de Blood Rage vendredi soir sur le troisième âge, quelqu'un qui veut piller Yggdrasil. On s'est retrouvé à 15 ou 20 figurines sur Yggdrasil, donc grosse bataille avec des forces de 15 ou 20 pour chaque joueur, enfin c'était un gros bordel. Et là il y a pareil, il y a des cartes bataille qui disent bah, gagner 2 points de victoire par figurine détruite pendant ce combat. Donc là, tu places ça, t'as 30 figurines qui décèdent, là, tu fais 60
points.
C'est un peu
grand,
quoi. Donc c'est assez jouissif, ce genre de combat. Et même, en fait, ce qui est marrant, c'est que même si tu sais que tu vas perdre, si t'as cette carte-là, tu te dis, il y a plein de figurines qui vont mourir, je vais pouvoir aller placer ça et faire plein de points de victoire. Donc c'est super intéressant.
Bien. Alors moi j'avais fait une partie donc avec toi il y a longtemps du coup.
Ouais, ça fait
je vais te donner un peu mon ressenti perso. Alors effectivement je pense que le jeu il est très bien, il a eu d'ailleurs on en a pas parlé mais il a eu non seulement un succès Kickstarter mais derrière il a eu un gros succès boutique.
Oui.
Il a super bien marché postérieurement dans les boutiques et pourtant c'est pas un jeu à 30 balles.
Non, il est actuellement à 80 euros chez Philibert pour la version Edge avec le jeu de base. Et il est toujours classé 17e sur BGG, 17e jeu dans le classement BGG donc.
Ouais. Moi le principal reproche que je lui fais c'est clairement pour le style de jeu que c'est en fait moi je m'attendais carrément pas à ce jeu là. En fait c'est pour ça que ironiquement je te disais au début c'est pas un jeu de figurines.
Oui.
C'est que moi je vois une boîte à 80 balles avec plein de figurines comme ça, je me dis c'est un jeu on va se taper dessus, c'est de la baston point quoi. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment un jeu de stratégie.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui est basé sur le draft au départ et l'exploitation des cartes, comment tu vas les jouer après.
C'est ça.
C'est un jeu avec je dis pas une grande profondeur stratégique mais moi je suis complètement passé à côté parce que je m'attendais pas du tout à jouer à ça en fait. Donc j'y suis allé vraiment à la petite semaine, je me suis fait rouler dessus. Après ça c'est une chose mais sincèrement sans passer par Kickstarter, jamais le jeu il aurait été comme ça. Mais jamais on aurait eu des figurines c'est pas un jeu dont le style de jeu fait que c'est un jeu à 80 euros en fait. Enfin, j'exagère vraiment beaucoup mais c'est un Seven Wonders avec une dimension stratégique sur un plateau quoi. C'est pas un jeu à 80 balles quoi. Même tu vois même la carte
le
plan de bataille, je vais
dire. Le plateau
ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, la carte, ça fait pas rêver, quoi. C'est une espèce de cible où, tu l'as expliqué, au milieu, il y a une case qui est accessible par tous. Donc, il faut se représenter une cible, découpée un petit peu comme une île, quoi. Donc, c'est pas la Scandinavie, c'est pas, vous voyez, c'est pas un truc qui fait voyager, qui fait rêver. On part à la conquête d'un territoire. Alors, on a l'impression qu'on a mis tout le monde sur une île volcanique, parce que, au bout d'un moment, au milieu, ça va exploser, quoi. Bon, c'est pas exploser volcanique, mais voilà. Et, donc je trouve qu'il y a des espèces de trucs qui font que le jeu colle pas avec ce qu'il est quoi. Ça c'est, moi ça me gêne un peu. Après je reconnais que c'est un jeu qui est sûrement très bien, moi je suis passé à côté du coup à cause de tout ça, mais voilà, bon, c'est des éléments je pense qu'il faut prendre en considération.
Alors là où je te rejoins c'est que effectivement le plateau en lui-même est pas super 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 joli et super
c'est pas dans le sens
super clair.
Ouais, c'est pas dans le sens que c'est joli ou pas, toi, c'est juste que ça fait pas rêver,
mais,
quoi, toi, c'est...
Ouais, je suis d'accord, le plateau est relativement basique et par rapport aux figurines et tout autour, c'est le plateau est pas aussi immersif que qu'il aurait pu être. Là où je te rejoins pas, c'est que moi les figurines, je trouve qu'elles apportent quand même pas mal. Effectivement, le jeu aurait pu sortir différemment qu'un jeu à 80 euros, mais sur le côté justement manipulation immersif, moi je trouve les figurines, en plus les figurines c'est du cool mignon note, donc c'est méga joli. Il y a un moment pour les monstres, pour savoir à qui le monstre appartient, il y a des petits, en fait chaque personne a une couleur et donc a des petites dessous de figurines, là, des petits clips qu'on met sous les figurines de couleur.
Ouais, c'est bien foutu ça.
C'est plutôt bien foutu. Et en fait, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve ça bien justement de mettre ce côté un peu à l'américaine sur des jeux de stratégie plus européens, on va dire. Parce que ça participe quand même au kiff quelque part du jeu, quoi. Ça participe vraiment, voilà, on met des figurines quand il y a une bataille sur Yggdrasil, que t'as 40 figurines, que t'as les gros monstres, que t'as les, enfin voilà, si on avait fait ça, je sais pas, avec des cubes,
je pense que ça rendrait pas pareil. D'accord, ça aurait pas été aussi immersif, mais du coup ça aurait peut-être permis de pas avoir un jeu à 80 balles non plus, quoi.
Ouais, mais si tu vas par là, même, enfin c'est pareil pour des zombicides qui sont plus des jeux de figurines à Ameritrash. En fait, les personnages et les zombies que tu mets sur les cartes, ça pourrait très bien ne pas être des figurines aussi, et t'aurais le même jeu.
Ça pourrait,
coûterait 30 euros.
Bien sûr, ça pourrait être des standees, comme ouais. Là, ça aurait pu être des figurines carton, quoi.
Oui.
C'est clair.
Ouais, tout à fait. Après, c'est pas le même, c'est pas le même kiff, je pense.
Non, je suis d'accord. Mais après, quelque part, ça aurait, en tout cas, dans les standards qu'on rencontrait peut-être encore, je veux dire, en 2015, bah, ça aurait plus collé peut-être aux standards de cette époque en termes de rapport style de jeu matériel, tu vois. Il y a quand même, quand même une dimension comme ça qui est importante. Enfin, en tout cas, moi, clairement, j'avais pas lu grand chose, en fait j'avais pas vu grand chose de Blood Rage, donc moi j'avais vu des figurines partout, je me suis dit autant c'est pas le genre de jeu que j'achète, tu vois, les jeux de figurines, autant on me propose une partie d'un truc à la Kemet ou je sais pas, j'allais dire Inis, mais Inis c'est pas trop non plus ce style de jeu, en fait, voilà, moi je vais carrément apprécier, enfin j'ai joué à Claustrophobia, tout des trucs comme ça, moi j'apprécie, c'est genre juste pas le genre de jeu que j'achète, mais voilà. Et là, je m'attendais vraiment à jouer à un jeu comme ça, quoi. Tu vois, donc,
voilà. Alors, on n'est pas très éloigné quand même du genre Kemet ou.
Ouais, Kemet, c'est vraiment du rentre-dedans, c'est le plus fort qui gagne, quoi. Alors que là, effectivement, tu vois, je me suis vraiment pris toutes les stratégies fourbes, tu vois, j'ai compris que, en fait, c'était pas forcément, il fallait pas forcément venir en force, quoi.
Ouais. Bah là où c'était dur aussi pour toi, et c'était ta première partie et t'en as fait qu'une, c'est que t'es tombé avec 2-3 joueurs
qui connaissaient bien le jeu. Et comme c'est un jeu de draft.
C'est un jeu de draft, faut connaître les cartes. C'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que si tu joues avec des joueurs expérimentés, tu vas sûrement te faire rouler dessus. Mais c'est un jeu aussi où il y a une réelle courbe d'apprentissage et une réelle courbe de progression. Tu vis pas ta deuxième partie comme ta première, ouais. et tu vis pas ta partie quand on a fait 15 ou 20 comme ta partie quand on a fait 2 ou 3, quoi. Et c'est un des intérêts du jeu, je trouve aussi, c'est que alors effectivement quand un nouveau joueur arrive avec des gens qui ont déjà 15-20 parties, c'est pas évident parce qu'il faut, c'est du draft, faut lire les cartes, faut connaître les cartes. Et puis il y a des stratégies qui sont pas naturelles au départ,
ouais,
les stratégies
ça,
d'aller se faire d'aller se suicider, en fait, pour faire des points. Effectivement, c'est pas quelque chose de très naturel, surtout dans un jeu de figurines un peu bourrin, c'est pas quelque chose qu'on appréhende bien à la première partie. Mais c'est des stratégies qui sont très puissantes et qui sont très intéressantes. Donc juste pour terminer, le jeu donc est passé par Kickstarter et du coup a eu le droit à 3 extensions directement. Donc il y a une première extension qui permet de jouer à 5 joueurs. Il y a une extension après avec des mystiques, donc c'est des personnages en plus. Et la troisième extension, c'est une extension qui renouvelle bien le jeu quand on a vraiment quand on l'a bien rincé. C'est l'extension avec les dieux. Donc les dieux, en fait, il y a 6 dieux, je crois, 6 dieux nordiques. Donc à chaque partie, on va en tirer 2. Et en fait, les dieux, chaque dieu va changer la règle des batailles dans la province dans laquelle ils sont. Donc si on fait une bataille dans la province où il y a tel dieu, il va donner une règle particulière. et une fois que la bataille est finie, il va se déplacer dans une province adjacente et ainsi de suite, et donc ça change un peu la physionomie du jeu et ça change un peu la physionomie des batailles. Mmh. Donc il y a des dieux qui vont être très justement sur le côté faut mourir, il y a des dieux qui vont vraiment récompenser les joueurs qui vont gagner la bataille, etc. Donc moi mon ressenti sur le jeu, c'est que bah comme je l'ai dit, c'est un de mes jeux préférés. Déjà pour le côté matériel, donc à part le plateau que je trouve pas très très joli et puis pas très contrasté et pas très immersif, tout le reste est vraiment magnifique, hein, les plateaux joueurs, les figurines, les illustrations de la boîte, de la règle, de tout, enfin c'est vraiment magnifique. C'est un jeu qui est très très profond, il y a beaucoup de stratégies, c'est très subtil, il y a vraiment une grosse courbe d'apprentissage. À chaque partie, on redécouvre des cartes, on redécouvre des stratégies. C'est très opportuniste aussi, puisque on peut vouloir partir sur une stratégie et finalement pendant le draft, ben on n'a pas les cartes qu'on veut, donc faut s'adapter à chaque âge en fait, à chaque draft, faut s'adapter à ce qui arrive dans nos mains. Donc ça c'est super intéressant aussi, c'est pas un truc tout tracé quoi. C'est vraiment très opportuniste. Moi j'aime bien les jeux un peu d'opportunisme. Donc c'est très opportuniste d'un âge à l'autre. On peut avoir un schéma en tête et faire un petit peu différemment, ou c'est pas figé. Mmh. Ça évolue vraiment pendant toute la partie. Et voilà, le format aussi j'aime beaucoup, puisque c'est vrai qu'une boîte à 80€ avec plein de figurines, on pense d'un jeu qui va durer 3 heures et quand on est avec des gens qui connaissent les cartes, le draft ça va aller assez vite, et après les phases d'action ça va aller assez vite, et j'ai déjà vu des parties à 4 qui durent moins d'une heure. Quoi. Ouais. Alors après, les défauts que je lui trouve, c'est que à 2 il est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas un jeu qui se joue à 2, et même à 3 c'est un petit peu limite, parce qu'il y en a souvent 2 qui vont se foutre sur la gueule et un qui va un peu regarder et qui va...
un qui visite. Voilà.
C'est ça, un qui visite un peu... Donc le jeu est vraiment optimal à 4 et 5, donc 4 dans la boîte de base, et avec l'extension 5e joueur qui à mon avis est quand même même si elle est un peu chère, l'extension doit être à 30€ je crois en plus, ou 35€ pour ajouter un clan, parce que ça rajoute toutes les figurines d'un clan, etc. Ouais. Donc c'est pas donné, ça doit être 30€ je crois. Mais à 4 et 5 joueurs, c'est vraiment là que le jeu prend toute sa dimension, et c'est là où il est vraiment le plus intéressant. Quoi.
Ok. Et donc ça se trouve encore ?
Oui, tout à fait, c'est toujours disponible chez Philibert. 80€, donc 79,99€ la boîte de base. Les extensions se trouvent encore aussi, ça doit être une 30aine d'€ chaque extension.
Okay.
J'ai pas regardé le prix exact des extensions.
Mmh. Du coup, je viens d'aller jeter un coup d'œil vite fait. Oui, effectivement, il y a des trucs à 22,50, 27,
ouais, c'est ça.
30, ouais, les extensions. Ouais.
C'est ça, c'est entre 20, ouais, en fonction de l'extension. Ouais,
mais qui ne doivent plus être dispo, celle-là, en revanche. Ouais, les extensions sont plus dispo apparemment.
Les extensions sont plus dispo ?
Non.
Ok. Bah, je sais, même plus en anglais ?
Non. Je sais pas.
Parce que moi, je sais, oui, les Mystiques étaient plus dispo quand j'ai voulu les prendre, et je l'ai acheté en VO parce que ça rajoute pas. Enfin, il y a pas beaucoup de.
T'as des cartes ?
Il y a pas beaucoup de matos, quoi. Ouais, il y a juste deux cartes par âge qui sont rajoutées, qui sont en anglais, mais c'est pas non plus de l'anglais insurmontable.
Ouais, bon, puis après, c'est que deux cartes à expliquer à tout le monde, c'est encore faisable.
Ouais, c'est ça. Ou après, sinon, tu fais une petite traduction, un petit autocollant, tu mets dessus, et puis voilà.
Ok.
Voilà pour Blood Rage, donc je vous refais un coup de fiche signalétique. Donc, c'est Blood Rage, un jeu de Eric Lang, illustré par Adrian Smith, édité par Cool Mini Air Note en VO et par Edge en VF. Mmh. C'est pour 2 à 4 joueurs pour la boîte de base, jusqu'à 5 avec l'extension 5e joueur. Pour des parties entre 60 et 90 minutes, voilà, plutôt 60 quand on connaît le jeu, plutôt 90 et plus quand on découvre le jeu et qu'on doit découvrir les cartes à drafter. Voilà.
Très bien, et ben merci. Et du coup, on va passer à Pioneers. Alors Pioneers, bien c'est un jeu de Emanuele Ornella, donc c'est un auteur italien au moins d'origine. Et le jeu est édité chez Queen Games. Alors il est illustré par Marcus Erd. Alors je suis allé chercher l'info chez BGG parce que le pauvre il ne méritait même pas d'être crédité dans le jeu. Apparemment, j'avoue que j'ai pas trouvé sur la boîte.
Oh merde.
Et j'ai pas trouvé dans les règles non plus.
C'est pas gentil, ça.
Non, c'est pas très sympa. Bon, en même temps, faut bien avouer, c'est pas forcément le truc le plus punchy du jeu, hein, les illustrations. C'est...
Oui, Queen Game, c'est pas connu pour ses illustrations.
Oui, voilà, ouais. Bah voilà, c'est des illustrations dans les standards de ce que peut faire Queen Games. C'est, en tout cas, c'est plutôt, comment dire, ça marche bien, quoi, c'est fonctionnel, ça, voilà, c'est pas désagréable, c'est pas moche, c'est relativement quelconque, entre guillemets. Et en tout cas, ça permet au jeu d'être bien lisible, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu qui est relativement simple, en fait, je dirais que c'est du jeu à l'allemande light. Il est annoncé pour 8 ans, donc bah, tout de suite on sent bien qu'on se place quand
oui,
même sur
accessible,
quoi,
quoi.
Du jeu accessible. C'est assez... dans la production d'Emanuele Ornella, c'est plutôt là qu'il se place en fait en général. Donc dans ces productions que vous pouvez connaître, il y a Oz qui a été édité chez Hystari, qui a pas fait un carton.
C'est un petit jeu de cartes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est un jeu de cartes. Alors c'est vrai qu'en même temps, ça rentrait pas trop dans la gamme d'Hystari, surtout à cette époque-là. Hystari avait essayé hein, de sortir un petit peu de son carcan, de faire un peu d'autres trucs, mais ça a jamais trop marché. C'est le jeu peut-être qui a le mieux marché comme ça chez Hystari, qui en sortant de son carcan, c'était peut-être Witness, mais encore, voilà. Donc Oz, il a fait Martinique aussi, qui il me semble avait été chroniqué par Yannibus dans un Soul Buzz. Il a fait aussi La Loire, et là il a sorti en même temps que Pioneers Okanagan chez Matago. Donc voilà,
d'accord.
Qui sont tous des jeux plutôt familiaux. Donc Pioneers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, on va se retrouver dans la peau de pionniers américains. Voilà, c'est très 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 100% collé avec le titre du jeu. On aurait pu s'en douter. Donc on va partir de l'est des États-Unis dans une diligence, et puis il va falloir déposer des pionniers sur les villes américaines. Donc le plateau va représenter une carte des États-Unis avec des villes plus ou moins placées voilà,
correctement.
Ouais, en fait il n'y a pas de nom de ville, en fait c'est ça que je voulais dire.
D'accord.
En fait il n'y a pas de nom de ville,
c'est des emplacements, quoi.
C'est ça, c'est des emplacements. Du coup il y a un réseau en fait de villes, donc les villes sont reliées par des routes pour indiquer simplement les villes qui sont reliées les unes aux autres. Et au début du jeu, on va placer sur chacune de ces villes, on va placer un marqueur qui va représenter une demande de la ville en type de pionnier. Alors il y a 6 ou 7 types de pionniers. J'ai un petit doute, il y en a, ouais, c'est parce qu'en fait il y a 6 pionniers différents, mais il y a un truc un peu de joker. Voilà, donc ça fait 7 types de tuiles, mais il y a 6 pionniers différents. Donc en gros, les villes peuvent avoir besoin d'un banquier, d'un marchand, d'un barman, d'un chercheur d'or, d'un fermier ou d'un sergent. Voilà. Et puis il y a le joker, c'est l'hôtel, hein, qui peut accueillir n'importe quel type de pionnier. Voilà. Ah, d'ailleurs, petite remarque en passant, pour revenir un peu sur nos sujets, le sexisme, les femmes dans le jeu, qui nous ont tenu deux épisodes chroniques, on notera que le seul personnage féminin du jeu est la marchande. Voilà, ça c'est dit. Bon, en même temps, faut avouer que à cette époque-là, je pense que c'était un petit peu macho quand même. Bon.
Bah oui.
Bon voilà,
c'est contextuel.
C'est ça, on va dire que c'était contextuel. Bon, mais bon, ça m'a quand même fait un petit peu sourire. Donc comment ça va se passer ? Donc on part de l'est des États-Unis, et on a une diligence pour tous les joueurs. Et cette diligence, en fait, on va la faire évoluer sur le plateau. Donc chacun notre tour, on va jouer les 3 étapes suivantes. Donc on va d'abord prendre de l'argent. Voilà. Ouais, ça va être rapide. Ensuite, on va pouvoir faire un achat. Donc cet achat, ça va être, on va pouvoir poser des routes. En fait, on va pouvoir entre guillemets privatiser une route. Donc mettre une route à sa couleur. Et la dernière action possible, c'est d'acheter des chariots. Donc au début du jeu, on va partir avec un chariot qui va contenir des pionniers. Donc au début, c'est un chariot, voilà, c'est le chariot du début. Donc on a 5 pionniers, tous différents. Et au fil de la partie, on va pouvoir racheter d'autres chariots qui vont contenir des pionniers. Donc les chariots, ils sont mis en fait dans une file, en gros, du moins cher au plus cher, et puis quand on en achète un, on fait glisser la file, ce qui fait que les chariots qui étaient un peu plus chers deviennent un peu moins chers, etc. etc.
Voilà. Système de rivière
voilà,
qui se décale.
Exactement. De 1 à 3, à 4 dollars. Enfin, bref. Donc c'est un jeu de pick-up and delivery, hein, je mets des guillemets super radiophoniques, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de pick-up, c'est plus du delivery. Il va falloir aller déposer nos pionniers dans les villes qui sont en recherche de ces fameux pionniers. Et la partie pick-up, en fait, c'est l'achat de ces chariots. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle ici. Donc, on peut donc construire des routes ou acheter un chariot. Et ensuite, se passe l'étape qui est un peu plus le cœur du jeu. Donc, on va se déplacer. Donc, on va déplacer la diligence. À chaque fois qu'on va emprunter un tracé, on va devoir payer un dollar. Si ce tracé est privatisé, on va devoir payer le dollar au joueur qui le possède. Et si le tracé est à nous, évidemment, on ne paye pas. On se paye nous-mêmes, si vous voulez, mais bon. Ouais. On va ainsi atteindre une ville qui demande un pionnier. Et à ce moment-là, on va pouvoir livrer un pionnier sur la ville et enlever la tuile qui indique la demande de pionnier. Voilà, donc en gros, chaque ville ne peut être livrée du coup qu'une seule fois.
D'accord.
Donc on a une carte comme ça au début qui est faite aléatoirement hein, avec les tuiles pionniers, hein, ils sont répartis aléatoirement. Et au fil du jeu, donc on va vider les villes de leur demande en pionnier. Donc je livre mon pionnier et un des éléments qui est assez intéressant dans le jeu, c'est qu'une fois que j'ai livré mon pionnier, je vais faire le tour de la table et je vais demander à mon voisin de gauche, pour commencer, s'il veut lui aussi livrer un pionnier à cet endroit-là. En gros, il va pouvoir me suivre et donc livrer un pionnier si celui-ci est de la même couleur que celui demandé.
Ouais,
du même type, on va dire plutôt, ouais, t'as raison. On va même dire type parce qu'il y a les couleurs des joueurs. Donc le même type que celui qui a été demandé. S'il le fait, il va devoir me payer 2 dollars. Et s'il le fait pas, je vais demander au joueur suivant et ainsi de suite. Un seul joueur va pouvoir me suivre de la sorte. Donc voilà, on va jouer comme ça, tout simplement, jusqu'à ce que un joueur n'ait plus de route ou qu'on ait épuisé la pile des chariots disponibles. C'est hyper simple. Là où le jeu va devenir intéressant, c'est dans son scoring. Alors, il y a une partie de scoring qui intervient par au niveau des chariots qu'on aura livrés. Donc les chariots qu'on aura vidés entièrement vont rapporter un certain nombre de points. Donc en fonction de la difficulté évidemment du chariot. Il y a des chariots, donc le chariot de départ il y avait, j'ai dit, il y avait 5 personnages.
5 pionniers.
Voilà, il y rapporte 12. Ensuite on passe à 4 personnages, 3 personnages ou 2 personnages. Donc ça fait pas varier le prix du chariot, puisque c'est la rivière qui fait varier le prix du chariot. Mais ça fait varier en revanche le nombre de points évidemment qu'on récolte. Okay. Donc ça c'est une partie, c'est pas forcément la plus intéressante parce que ça finalement c'est un système de contrat. Mais par dessus ça, ce qui va renforcer le côté intéressant du jeu, c'est que il va y avoir une partie de points qui peut être obtenue. Alors il y a un truc assez accessoire. Bon, c'est un des types de pionniers, parce que chaque type de pionnier, j'ai pas dit, mais permet de faire un effet. Je vais revenir un petit peu dessus quand même rapidement. Mais donc il y a le chercheur d'or. En gros, quand on pose un chercheur d'or, on prend une pépite. Et les pépites, c'est un système de points aléatoires en fait. C'est 3 à 5. Quoi. C'est, voilà. Donc on va marquer aussi à la fin ces pépites. Et puis le dernier élément, c'est le réseau qu'on aura tracé. On va regarder son réseau le plus intéressant. Je dis volontairement pas le réseau le plus grand. En fait, c'est il faut un réseau de routes privatisées continues. Mais ce qu'on va compter, c'est le nombre de pionniers qui est sur cette route. Et il faut réussir à créer des espèces de patterns. Hein. Il faut essayer de regrouper ces pionniers à certains endroits. Et évidemment, tout le monde va essayer de faire pareil. Comme les routes sont privatisées et qu'en gros, il n'y a qu'un joueur qui peut s'y mettre, forcément, il y a une compétition sur les routes. Donc au final, c'est un jeu plutôt à l'allemande, mais avec pas mal d'interactions à ce niveau-là. Parce qu'il va falloir... Oui, vas-y.
Privatiser n'importe quelle route ou c'est forcément celle où tu viens de passer avec le chariot, non, avec la diligence.
Ouais, c'est une bonne remarque, tu peux privatiser n'importe quelle route en fait. N'importe où sur le plateau. Donc tu peux soit te rattraper sur des trucs que t'as pas pu faire précédemment, soit éventuellement anticiper, mais bon là j'y crois pas trop.
En fait, tu peux privatiser des routes qui sont devant, en gros, sur le chemin de la diligence pour forcer un peu les gens à les emprunter et récupérer de l'argent, quoi.
Oui, alors c'est pas vraiment tant une source de revenus, tu vois. C'est rarement vraiment une bonne source de revenus, les routes, parce que elles sont pas empruntées souvent. En gros, une route, tu la payes 2 $ ou 5 $ les deux routes.
Ah
Et
oui.
quand t'es emprunté, tu gagnes 1 $. Donc tu vois,
Oui, c'est pas super rentable.
c'est ça, tu fais pas une culbute avec ça. L'intérêt de route, c'est vraiment plus sur ce scoring final, d'essayer de relier tes pionniers.
D'accord.
Alors après, bon, il y a quelques éléments de développement dans le jeu, puisqu'il y a un pionnier qui est le banquier qui permet d'avoir des plus gros revenus en début de tour. En gros, tu peux avoir jusqu'à deux banquiers. Enfin, quand tu as posé jusqu'à deux banquiers, tu peux gagner jusqu'à plus de 2 $, sachant que là, ce que tu gagnes au départ, c'est 3 $ de base. Donc tu peux monter jusqu'à 5 $. Donc ça peut être un facteur de développement intéressant, surtout si tu arrives à poser un banquier assez tôt dans la partie. Après, tu as la marchande, la fameuse, qui elle te permet de faire plusieurs achats dans un tour. Donc de base, t'en fais qu'un. Et là aussi, si tu achètes, enfin, si tu déposes jusqu'à deux marchands sur le territoire, et là, tu vas pouvoir faire jusqu'à deux achats supplémentaires. Voilà. Et
Les achats, c'est quoi? C'est les routes, par
c'est les
exemple,
routes et
c'est
les
ça que tu achètes?
chariots.
D'accord, ok, les routes et les chariots.
Voilà. Toi, j'ai fait une partie ce week-end, par exemple. Autant j'ai développé un banquier assez tard dans la partie et ça m'a pas trop gêné. Autant, tu vois, le marchand, j'en ai pas réussi à en avoir un dans la partie et j'ai été un peu bloqué parce que de temps en temps, bah tu, en fait, quand t'as plus de chariot, t'es obligé d'en acheter un. Ce qui fait que
T'es obligé, ok.
de, c'est ça, t'es obligé. Donc du coup, c'est forcément, si t'as qu'un achat, c'est forcément ton achat du tour. Et des fois,
D'accord.
tu voudrais développer une route, tu vois, pour t'assurer qu'il n'y en a pas un connard qui va venir prendre la route que tu convoites. Hein. Et
Oui.
ben voilà, ben, si t'es obligé d'acheter un chariot, ben, t'es obligé d'acheter un chariot, quoi. Voilà. Donc ce genre de truc. Et donc après, les 5, enfin les 4 autres, du coup, pionniers, pour faire rapide, le barman, ben, il permet de décharger un pionnier en plus, qui est pas forcément de la même couleur que lui. En gros, alors tu le décharges pas sur le plateau, c'est important quand même, parce que du coup, c'est pas un pionnier en plus qui va rentrer potentiellement dans le décompte de points final. Mais tu peux en gros ben, réussir ton objectif de chariot plus vite, parce que tu peux enlever un pionnier d'un chariot, quoi.
D'accord.
Voilà, le chercheur d'or, je l'ai dit, c'est des pépites. Le fermier, l'intérêt, c'est de réussir à avoir plusieurs chariots avec des fermiers. Sur chaque chariot, tu peux jamais avoir deux pionniers du même type. Du coup, il faut essayer d'avoir plusieurs chariots avec plusieurs fermiers. Et quand tu déposes un fermier, en fait, tu peux en déposer jusqu'à trois au même endroit.
D'accord.
Ça peut être un bon jackpot
Un bon moteur de points
pour la fin de
avec les
partie.
routes, quoi.
Ouais, c'est ça. Et le dernier, c'est le sergent. Donc, le sergent, lui, il permet de poser une route. Quand tu l'acquiers, en gros, tu poses une route n'importe où et tu peux poser une route en parallèle d'une route existante.
D'accord, donc tu peux être plusieurs joueurs sur la même route avec ton
Deux
coup.
maximum.
Deux maximum, ok.
Ouais, donc là aussi, là, il y a une petite course au bout d'un moment dans la partie quand les routes elles commencent à se faire. Il y a une petite course pour aller chercher les sergents pour réussir à aller reprendre une route qu'on s'est fait piquer dans la partie. Enfin voilà. En gros, voilà, c'est pas un jeu très compliqué, c'est pas un jeu très novateur. Pourquoi j'en ai parlé? Parce que très honnêtement, j'ai pas non plus 36 000 nouveautés sous le coude. De celles que j'ai essayées depuis Essen, moi c'est une de celles qui me plaît le plus. C'est un jeu hyper abordable, avec de l'interaction malgré tout, malgré que ce soit un jeu quand même plutôt à l'allemande. Il y a de l'interaction. Et puis bah le jeu est plaisant, ça coule vraiment. Enfin si tu veux c'est la mécanique elle est hyper huilée quoi.
Ouais, c'est très fluide.
Ouais tu enfin ça joue hyper vite. Alors
Là, ça a l'air, en tout cas, aux explications, j'ai à peu près, enfin, je visualise à peu près assez rapidement à quoi ça peut ressembler. Oui, effectivement, ça a l'air assez fluide et
Alors
assez sympa.
c'est un truc que d'ailleurs parce que moi je dis que c'est hyper fluide et j'ai eu quelques retours. En particulier, j'avais eu peur parce que quand je l'ai essayé à Essen, on a fait quelques tours avec un ami. Et il y avait deux joueuses allemandes qui étaient là et qui mettaient des plombes à jouer. J'avais pas compris pourquoi. Et il y avait Geeklet qui était avec son équipe sur une autre table et je pense qu'ils ont mis au moins 2 heures pour faire une partie. Donc j'ai eu un peu peur quand même. Et moi, les parties que j'ai faites, bon, j'en ai fait 4 ou 5, je crois. J'en ai pas fait une qui a dépassé l'heure. Donc, même jusqu'à 4. Je crois que la plus longue, c'était ce week-end. Je crois qu'on a fait à peu près une heure. Et j'ai joué un coup avec ma femme à 2. On a fait une demi-heure.
Oh, ça va vite. Ouais, parce que le jeu se termine quand? Quand il n'y a plus de chariot, t'as dit, ou quand quelqu'un a plus de route?
Oui.
Et t'as, t'as combien de route à ta couleur?
Je ne sais plus, 75 par couleur. Et bah comme c'est, alors après peut-être qu'on exploite
75.
Non, 15 par couleur.
Ah, 15 par couleur.
J'ai en fait, oui, c'est parce que j'ai dit il y a 60 routes et 15 par couleur. J'ai un peu mâché le tout.
T'as fusionné les deux.
C'est ça, j'ai un peu fusionné les deux. Je lisais ce qui était marqué sur la liste du matériel. Ouais, alors peut-être aussi que nous on s'oriente plus sur cette stratégie là, toi poser des routes pour marquer des points à la fin, plus que sur la partie
sur chariot,
chariot, tu vois. Parce que c'est vrai que je réfléchis, ouais, je crois pas qu'on en soit beaucoup arrivé à la fin des chariots. Si tu vas sur les chariots, c'est sûr, c'est plus long en fait, parce que enfin tu vois, en termes de timing de jeu, clairement il restait pas mal de chariots alors que les routes on les avait finies, quoi.
Et donc au niveau du scoring, t'as que ces deux moyens là, t'as les chariots que t'as vidés, plus ta meilleure route avec les pionniers qu'il y a autour, quoi.
Ouais, et les si tu fais des chercheurs d'or, tu gagnes des pépites,
pépites
dans la partie
qui te rapportent des points de victoire, c'est ça.
De 3 à 5 par pépite.
Ok.
Voilà, ouais. Tu tournes or que t'as à la fin rapporte rien. C'est ultra simple. Voilà. Moi je conseille pour les gens en tout cas qui cherchent. C'est pas du gros jeu, c'est du jeu léger, ça joue vite. C'est un petit côté pick-up and delivery sans en être vraiment. Je sais que moi c'est un genre de jeu aussi que j'aime bien, ça. J'aime bien faire le livreur, quoi. et voilà. Après c'est pas du tout c'est pas la grosse immersion, ce sera pas le jeu de l'année, hein, ça c'est clair, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment un jeu agréable. Et pour ne rien gâcher, parce que je l'avais noté quand même et c'est important de le dire, les règles sont correctes, elles sont très bien traduites.
Ah, ce qui est pas toujours le cas pour les Queen Games.
Non, ça a pas toujours été le cas, ça a même jamais été le cas jusqu'à sûrement cette année ou peut-être l'année dernière, je sais pas. Je regarde pas toujours les Queen Games. Mais il faut savoir qu'ils sont distribués par Atalia quand même maintenant. Alors peut-être que ça joue aussi. Parce que je crois qu'Atalia relit les règles et refait Donc,
avant ça, ils étaient distribués par qui avant?
Ben, je sais pas.
Okay, bon.
Je crois qu'ils étaient pas bien distribués, non.
Ok.
C'était peut-être Ouya, non? Ah, je sais pas. Je veux pas dire de conneries.
Je sais pas dire. Ok. Bon. On vérifiera.
Voilà. Donc, Pioneers, c'est un jeu d'Emmanuele Ornella pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, illustré par Marcus Ernst. Et c'est 37,90€ chez Philibert. Alors c'est peut-être un petit peu cher pour ce genre de jeu. Voilà, bon, c'est le format de boîte qui correspond. La boîte, elle est quand même pas super pleine, quoi. Mais bon, il n'y a pas de thermo dedans. Donc il y aurait eu un thermo, vous auriez eu l'impression que la boîte était pleine. Ouais, ça va, quoi. Enfin.
Après, il y a pas mal de meeples, non, du coup.
Il y a pas mal de.
C'est des petits meeples.
Ouais. Oui, c'est ça, les pionniers, c'est des petits meeples. Les routes, c'est des petites routes en bois assez classiques. Non, le matériel est bien, hein. Il y a rien à redire, hein. C'est pas fastueux, mais c'est franchement bien.
C'est du classique, quoi.
Voilà, ouais, du classique de ce qu'on trouve dans les jeux allemands de chez Queen Games.
C'est ça, du classique à l'allemand.
Voilà. C'est, tu vois, là, il y a vraiment pas tromperie sur la marchandise, quoi. Tu vois,
c'est marron un peu, les illustrations, c'est un peu marron.
Eh ben ouais, la boîte, elle est un petit peu jaune marron, ouais.
Bah voilà.
Avec du bleu, quand même,
pas
moins, tu vois. Voilà, t'as tout deviné. Incroyable, comment fais-tu?
c'est le talent.
Le talent, je ne vois pas d'autre chose. Et bien voilà, je pense que du coup on en a fini.
Ok,
on
va parfait.
Autre chose à ajouter, non?
Non, bah vivement Cannes, je pense que on se retrouvera bientôt pour vous parler de Cannes. On n'a pas commenté les les nommer cette année, mais
non. Allez, tiens, est-ce qu'on se risque un petit pronostic quand même juste pour finir?
On peut.
Ouais.
On peut.
Alors on fait juste du coup très rapidement. Alors du coup je fais un peu de tête. Last Door donc sont nominés, Twinit, Dice Forge,
Azul,
merci et Flamme Rouge.
Flamme Rouge.
Excellent jeu. On va pas faire de polémique, mais d'ailleurs j'ai trouvé que cette année la sélection se prêtait pas trop à la polémique. À part évidemment Flamme Rouge, Monsieur Fall, machin. Bon voilà. Mais bon. Donc autant moi j'aime beaucoup Flamme Rouge, autant je pense pas que ce soit un jeu qui puisse gagner un prix du fait de son thème, etc. Même si c'est sûrement mon jeu préféré de la sélection, je pense que c'est Twinit qui va gagner. En même temps, Twinit, j'ai fait énormément de parties, j'adore ce jeu aussi.
Alors moi, j'ai joué à tout sauf à Azul. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Et du coup, je prendrais bien le risque de parier sur le jeu auquel j'ai pas joué.
il a ses chances. Bah,
ouais, j'ai pas. Enfin, les retours que j'en ai eu, et puis je vois moins les trois autres gagner. Alors bizarrement, Twinit, j'adore aussi, mais je sais pas. Je sais pas s'il rentre vraiment dans la catégorie.
Ah bah si, c'est familial, c'est un jeu pour tous. Si, il rentre dans la catégorie, il n'y a pas de soucis.
Non, il rentre dans la catégorie, mais non, mais je suis d'accord, mais je sais pas, je le vois pas gagner.
Bon, Azul quoi.
Flamme Rouge, je le vois pas gagner non plus pour les. Enfin, tu l'as dit aussi. Mm-hmm. Dice Forge, pareil, je trouve le jeu très original dans sa mécanique, mais je trouve pas qu'il ait suffisamment de qualité.
Moi, je trouve plat. Je trouve qu'effectivement, il est très novateur dans son matériel, en fait, dans son matériel et son approche du deck building qui est presque du deck building, mais qui n'en est pas. Mais bon, après, voilà quoi.
Et donc Azul, c'est le seul que j'ai pas essayé, donc je peux un peu l'idéaliser, donc je vais dire okay. Vendu pour Azul.
Ok, alors ensuite dans le expert, donc on a Terraforming Mars,
Great Western Trail,
et on a Horror Arkham, le jeu de cartes.
Ouais. C'est ça.
Alors là, lui, j'avoue que j'aurais jamais sorti son nom. moi, je pense que ce sera Terraforming Mars.
Bah, je suis assez d'accord. Alors, j'ai pas joué à Horror Arkham, le jeu de cartes. Les gens qui y ont joué ou les joueurs que je connais et qui jouent à ça le trouvent vraiment, vraiment très bien. Donc, je peux pas trop juger là-dessus. Et donc, si je devais choisir entre Terraforming Mars et Great Western Trail, ce serait Terraforming Mars, moi, sans hésiter. Mmh. J'ai bien aimé Great Western, mais je le trouve un peu lourd, en fait, je le trouve un peu long pour pas grand chose. Je trouve qu'il s'étire vraiment sur la fin de partie, mais il est très bien, hein, Great Western Trail. Mmh. Après, Terraforming Mars, on peut un petit peu regretter une édition, l'édition qui est pas forcément.
Les illustrations.
Mmh. Bah, pas que les illustrations, mais même le matériel, le petit matériel, plateau personnel, il y a des cubes qu'on doit placer sur des cases particulières, ça bouge tout le temps, enfin. Il n'y a pas une ergonomie folle sur Terraforming Mars, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais le jeu est vraiment excellentissime. Quoi.
Mmh. Ok. Et alors pour Last Door Enfant, on a Perle à tête, on a Boom et on a Nom d'un renard. Alors j'avoue que je suis allé rechercher le dernier. Alors Nom d'un renard, je sais même pas ce que c'est. Je me suis pas trop renseigné. Perle à tête, j'en ai entendu parler. Et Boom, j'en ai entendu vaguement parler. Et moi, je pense que ce sera Boom. Il a l'air plus original que les autres.
Bah moi, Boom, c'est le seul dont j'ai entendu parler. Et effectivement, ça a l'air d'être sympathique. Donc n'ayant pas une grande connaissance, je vais dire Boom aussi.
Je crois que c'est le premier jeu d'un auteur français.
Alex Emerit, que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais, on est dans des groupes d'auteurs communs, etc. Okay. Donc,
ouais, je ne veux rien savoir.
Mais ouais, okay. Donc Boom, ce serait sympa, ouais.
Ok, bah écoute, hein, voilà, on s'est lancé, on verra bien. Allez.
Advienne que pourra.
Jetez-nous des pierres.
Allez, à Jacques Taès.
Très bien, bah du coup on va se retrouver le mois prochain sûrement pour un débrief de Cannes, puisqu'on y sera tous les deux.
De nos mauvais pronostics.
Voilà, de nos mauvais pronostics. Mais n'hésitez pas, hein, si vous nous croisez à Cannes, on va essayer de prendre nos t-shirts pour ces jeux. Voilà, qu'on portera pendant les 3 jours, hein, bien sûr, sans suer dedans.
Oui.
Et puis, n'hésitez pas à nous interpeller ou à nous à anticiper, à nous contacter sur les réseaux sociaux avant si vous voulez qu'on se voie. Voilà, moi, je suis toujours partant.
Ouais.
J'adore
pour
ça.
Boire des bières, pour faire des jeux. Enfin, il n'y a pas de souci. Peu importe l'activité.
Très bien. Bon, bah allez, on vous dit au mois prochain. Et puis, d'ici là,
jouez bien.